continue notre série dans l'évangile de Jean et nous arrivons au chapitre 20. Chapitre 20 donc, de l'évangile de Jean, c'est à la page 704 dans les Bibles blanches de l'Église. Je crois que c'est à la page 1774 dans les grandes Bibles. Et avant de lire le passage, je vais... Merci notre bon Père Céleste, parce que nous pouvons nous placer devant toi ce matin pour te demander de nous parler par cette parole inspirée, soufflée par ton esprit. Tu as dit dans Jean 14 que ton esprit allait rappeler les paroles de ton Fils aux apôtres, et merci parce que nous avons ces paroles devant nous ce matin. Parle-nous, transforme nos cœurs, donne-nous de voir Jésus en quelque sorte et fortifie notre foi pour que nous puissions te connaître davantage, t'aimer davantage et suivre plus fidèlement ton Fils. C'est notre bon Père Céleste, nous demandons toutes ces choses au nom de notre Sauveur ressuscité, Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc Jean 20, verset 1. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre. Elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posé par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Elle vit deux anges, habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle a répondu, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. » Et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Et il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui m'ont vu et qui ont cru, et ceux qui m'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc voici notre texte pour ce matin. Alors, en ce moment, il fait très chaud. Et pourtant, en début de semaine, il faisait assez froid. Cet hiver était un hiver assez bizarre. Et quelqu'un me disait la semaine dernière qu'ils avaient l'impression qu'on n'a pas vraiment eu un hiver, cet hiver. Qu'on a eu peut-être des épisodes de froid, mais pas vraiment un vrai hiver. Certains, peut-être comme Greta Thunberg, cette jeune Suédoise qui a déclenché tout un mouvement parmi les jeunes, certains vont dire, ben voilà, c'est dû au changement climatique. Et c'est clair que le climat a changé au fil des siècles. Le consensus des scientifiques et des médias, c'est qu'il y a un changement climatique en ce moment. Un changement climatique dû aux actions des hommes, à l'humanité. Et ils sortent des données, des témoignages, des études pour étayer ça. Et ceux qui nient ça sont traités parfois de manière un peu violente, ils sont traités de négationnistes. Ils refuseraient d'accepter les preuves. Dans un autre domaine, bien tristement, d'autres nient la réalité historique de la Shoah, l'Holocauste, le meurtre à l'échelle industrielle des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ces négationnistes piétinent les témoignages des survivants, des procès des coupables, des photos, des films, des sites comme Auschwitz, et ainsi de suite. Et la négation de la Shoah, c'est un crime. On ne joue pas avec des faits établis. Et à juste titre, on en parle dans les manuels scolaires. Bon, ce matin, dans ce passage, on est face à un événement historique bouleversant. La résurrection de Jésus-Christ. Ce matin, nous fêtons, nous célébrons Pâques. Nous célébrons cette résurrection. On a décoré l'église, on l'a fait il y a 2 semaines, je pense, et aussi pour la fête des enfants. Et lors de cette fête des enfants, il y a eu des bricolages, des chants, une histoire, bien sûr, aussi une chasse aux. Et nos enfants ont invité pas mal de copains de leur classe. Donc bravo les enfants, c'était très bien. Mais quand nous parlons de la résurrection de Jésus-Christ, est-ce que nous parlons de quelque chose qui a vraiment eu lieu dans l'histoire? Ou est-ce qu'on parle simplement de quelque chose, voilà, une histoire qui nous console peut-être de manière personnelle, qui nous donne un brin d'espoir? Malgré tout, est-ce qu'on est en train de parler de quelque chose qui devrait être dans les manuels scolaires? Peut-on parler de négationnistes pour ceux qui refuseraient de croire en la résurrection? Notre État français est un État laïque, nous le savons. L'État ne reconnaît aucun culte, c'est-à-dire ne veut pas dire qui a raison ou qui a tort. Il veut être neutre dans ce domaine-là. Et à bien des égards, c'est quelque chose de bien pour nous tous. La France a connu des périodes difficiles avec des guerres de religion. Mais un effet secondaire, c'est qu'à force de ne pas vouloir s'aventurer dans ce domaine de la religion, ça conduit inéluctablement à réduire la foi, la religion, à quelque chose qui est simplement dans la sphère privée. Ça relèverait simplement du monde des idées, des opinions personnelles. Tout ça concerne simplement le côté privé de la vie. à l'école, au collège, au lycée, je doute qu'on parle beaucoup de la résurrection de Jésus-Christ. Et sans doute pas du tout des preuves en faveur de la résurrection. Donc, que penser de tout ça? Comment aider nos enfants qui grandissent dans cette ambiance-là? Comment nous aider nous-mêmes? Comment aider ceux autour de nous, nos amis qui enquêtent sur la foi chrétienne? Voici trois affirmations pour ce matin, et je vais demander à David de les projeter s'il les voit. Merci David. Voilà, trois affirmations pour ce matin. Notre foi est raisonnable, suivie de notre foi est personnelle. Et on va terminer avec notre foi est publique. Et tout ça parce que Christ est vraiment ressuscité. La foi est raisonnable, personnelle et publique. On va commencer avec cette première affirmation. À la fin de notre passage, on a lu ceci. C'est Jean qui explique un peu pourquoi il a écrit son évangile. Verset 30, Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes. Donc il parle d'abord de ce signe de la résurrection, mais aussi de tous les grands signes dans l'évangile de Jean, les miracles, comme la résurrection de Lazare, par exemple. Il a fait beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, c'est-à-dire le Christ, c'est le même mot, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc l'auteur de cet évangile, Jean, l'évangéliste Jean, a écrit ce livre parce qu'il est venu persuader. Il est venu persuader de croire en Jésus. Il est un homme raisonnable qui fait appel à notre raison, à notre intelligence, à nos cerveaux. On va voir tout à l'heure, c'est le deuxième point, que oui, quand même la foi est personnelle. Que la foi est quand même une affaire du cœur. Mais ça n'enlève rien de la raison. La Bible parle à nos raisons. Jean, l'auteur de cet évangile, parle à nos raisons. Dieu nous a créés avec des raisons, avec une intelligence, avec une logique. Et on voit ici que la foi chrétienne est une foi raisonnable. Moi, j'aime bien la série que vous lisez assez récente autour du personnage Sherlock Holmes, le détective fictif de Londres, qui est basé sur un roman, je pense, du 19e siècle ou du 20e siècle. Cette série télévisée avec Benedict Cumberbatch. Et tout se passe très rapidement. Il faut suivre la logique, il faut analyser les choses avec lui. Lui voit tout beaucoup plus clairement que ceux qui suivent l'auditoire. Mais on doit tester les moindres mots des suspects. Et l'évangéliste Jean nous invite ce matin, en quelque sorte, à devenir enquêteur avec lui, à enquêter avec lui, à suivre son témoignage, à suivre les personnages. Donc, le texte ce matin commence avec le témoignage de Marie de Magdala. Elle va de bonne heure le dimanche matin au tombeau de Jésus et elle voit que la pierre a été enlevée. Peu de tombeaux à l'époque avaient ces grandes pierres comme ça qu'on roulait. C'était que les tombeaux des riches qui avaient de telles pierres. Elle est choquée. Elle court pour trouver Pierre. Et sans doute Jean lui-même, l'auteur. Jean se donne le nom l'autre disciple dans ce récit. Mais sans doute il parle de lui-même. C'est sa manière de parler de lui-même. Il veut être un peu un auteur anonyme dans le texte. On a le petit témoignage de Jean, comme quoi, lui, Jean, a couru plus vite que Pierre. Mais que c'est Pierre qui est arrivé quand même, qui est entré en premier dans le tombeau. Ça sent le témoignage oculaire. Jean nous donne tous ces détails dans ce passage. Et ensuite, plein de détails sur les vêtements de Jésus. Pierre voit les bandelettes posées par terre. Il voit le linge qui avait été mis sur la tête de Jésus. Et ce linge est enroulé dans un endroit à part. Le corps de Jésus n'est pas là. Mais les vêtements sont bien là. Alors qu'est-ce que l'enquêteur doit en conclure? C'est curieux, si quelqu'un aurait volé le corps, il n'aurait jamais enlevé toutes les bandelettes avant. Ce serait encore plus difficile de transporter le corps. Ce serait aussi un peu dégoûtant, en fait, avec un corps comme ça. Si un voleur aurait voulu prendre des choses de valeur, et en fait, les vêtements à cette époque-là avaient une grande valeur, ben, il aurait pris les vêtements, mais il aurait laissé le corps. Mais c'est le corps qui n'est pas là. Et les vêtements sont là, bien rangés.
Et au verset 8, Jean, l'enquêteur, en quelque sorte, le rapporteur en tout cas, nous dit ceci. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi dans Jean lui-même. Il vit et il crut. Et donc c'est le grand déclic chez Jean. C'est un moment de déclic. Raisonnable, son cerveau tourne à 100 km/h, le corps de Jésus n'est pas là, mais les vêtements de Jésus sont là. Déduction logique, il est ressuscité. Jean et les autres ne s'y attendaient pas. Il dit ici au verset 9, en effet, ils n'avaient pas encore compris d'après l'écriture que Jésus devait ressusciter. Ils n'avaient pas encore compris ça. Ils ne s'y attendaient pas. C'est pas comme s'il était allé en disant, je veux que ça se passe. Et je vais imaginer que ça se passe, il s'y imaginait même pas. Et il voyait les bandelettes. Ensuite, une fois que Pierre et Jean sont partis, on a cette scène avec Marie, qui rencontre le Christ ressuscité, Jésus ressuscité. Et c'est une scène poignante, qui sent le vécu de cette femme. Elle est dans les états. Elle pense que cette personne est peut-être le jardinier. Elle entend sa voix qui dit son nom, Marie, et elle croit. À l'époque, malheureusement, le témoignage d'une femme, et sans doute une femme seule, n'avait pas beaucoup de valeur. C'était injuste, mais c'était comme ça à l'époque. Pourquoi est-ce que Jean, l'auteur, le rapporteur, pourquoi est-ce qu'il a choisit d'inclure cette scène qui a peu de valeur devant un juge, devant un auditoire, devant un acteur. Pourquoi est-ce qu'il choisit de mettre cette scène en avant? Le premier témoignage du Christ ressuscité. Logiquement, parce que c'est parce que ça s'est passé comme ça. Ensuite, le soir même de ce premier dimanche de Pâques, les disciples sont réunis. Les portes fermées, ils ont peur des chefs juifs. Et tout d'un coup, l'inattendu se passe. Verset 19, Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Et après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Manifestement, le corps de Jésus est un peu différent. Marie avait du mal à le reconnaître tout de suite. Et ici, on voit que Jésus passe au travers des murs, des portes. Mais c'est quand même le même corps. Ce corps qui n'est plus dans le tombeau. Ce corps a des marques, des clous, et de cette lance qui a transpercé le côté de Jésus. Il y a au moins 10 disciples présents. Et ils voient la même chose. Ils entendent tous la même chose. Des rêves, des hallucinations en groupe. En fait, ça n'arrive jamais. C'est impossible. Ça ne peut pas expliquer ce qui s'est passé. Ils ont dit d'une voix unanime, nous avons vu le Seigneur. Il ne faut pas voir dans ses disciples des hommes superstitieux, des hommes un peu naïfs, un peu simples. Voici ce que Thomas dit. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirais pas. Ce n'est pas que Thomas soit un athée. Il était quand même un juif pieux, croyant. Mais il est un homme qui ne veut pas se laisser berner ou même décevoir. Il veut être sûr avant de céder à la joie. Et quand Thomas le voit 8 jours plus tard, peut-être le dimanche suivant, quand il réalise aussi que Jésus est ressuscité, a dû entendre les propos qu'il a dit 8 jours auparavant concernant son côté, concernant
concernant ses mains. Quand il entend Jésus parler de ces choses, il conclut, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et la réponse de Thomas là, c'est là où l'auteur Jean venu conduire dans cet évangile. On arrive au chapitre 20, vers la fin. Et Jean veut que nos raisons, nos intelligences concluent que oui, Jésus est vraiment ce Seigneur. Qu'il est vraiment ce Seigneur ressuscité. Qu'il est vraiment Dieu lui-même, le Fils de Dieu. Jean, l'auteur, lui présente une foi raisonnable, un témoignage de ce qu'il a vu lui-même, de ce qu'il a entendu lui-même. C'est ce qu'il dit aussi dans sa première lettre au début. Les apôtres comme Jean ont passé la suite de leur vie à redire le même témoignage, inlassablement. Et certains ont même payé de leur vie. Mais ensemble, jusqu'à la fin, de manière unanime, ils ont dit, nous avons vu le Seigneur. Et comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Et du coup, Dieu ne nous invite pas à laisser notre intelligence à la porte lorsque nous venons à l'église ou quand nous lisons la Bible. Notre foi est raisonnable. Elle est basée sur des témoignages oculaires, crédibles et logiques. Si vous voulez peut-être aller un peu plus loin, enquêter un peu plus sur ce côté raisonnable de la foi, sur les preuves historiques, logiques en faveur de la résurrection, je peux vous recommander le livre Jésus l'enquête. Je l'ai mis là. Ce livre-là, donc il y a un exemplaire à la librairie. Il y a aussi un film qui est sorti l'année dernière, donc certains l'ont vu l'année dernière. Il est très bien. C'est le récit d'un journaliste qui était sceptique, qui ne voulait pas croire, qui a enquêté sur ce qui s'est passé sur la résurrection. Ça lui a pris du temps, il est allé voir les spécialistes, mais ensuite il a compris que Jésus est vraiment ressuscité. Mais si notre foi est intelligente, logique et raisonnable, elle n'est pas moins personnelle. Elle est quand même une affaire du cœur aussi. Et nous arrivons à notre deuxième point. Un missionnaire du XXe siècle, un certain Leslie Newbegin, je crois qu'il est mort peut-être au début des années 80. Dans ses écrits, il démontre, il nous montre que notre foi est bien raisonnable. Mais après avoir suivi la logique, un peu comme on a fait ce matin dans ce texte, en suivant l'exemple de la résurrection, après avoir suivi cette logique, nous arrivons à un endroit, à un moment peut-être, où on doit quand même faire un certain saut, un saut logique, mais un pas plutôt, peut-être un pas de foi personnelle. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces témoignages? Des témoignages de Jean lui-même, de Marie de Magdala, de Pierre, de Thomas et de bien d'autres. Ils ont vu le Christ ressuscité. Alors, ce n'est pas un pas, un saut fou, on saute dans le vide, sans parachute, sans saut, sans corde élastique. Non, c'est bien un pas logique, raisonnable, basé sur ces témoignages oculaires, crédibles. Mais c'est bien un pas personnel, parce que la foi chrétienne est une foi personnelle. Et en faisant ce pas, nous devenons nous-mêmes des témoins. Nous expérimentons nous-mêmes la réalité de la foi en Christ. Nous devenons nous-mêmes des témoins de son amour, de sa foi. En guise d'illustration, je vais prendre une chaise.
Voici une chaise ici. Elle est faite de métal et de plastique acheté à Ikea. Elle est conçue pour qu'on puisse s'asseoir dessus, pour qu'elle puisse supporter mon poids. Je sais ces choses, donc ma raison en est même persuadée quand je vois cette chaise. Mais pour que je m'assoie dessus, je dois faire confiance à la chaise. Je dois décider de passer à l'acte,
m'asseoir dessus.
Et voilà, je vais poser la chaise. Je vais m'asseoir dessus. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est bon. C'est une bonne chaise, je peux vous le confirmer. Et dans un sens, c'est ce qu'un disciple fait. C'est ce que les premiers témoins de la résurrection ont fait. Marie de Magdala a entendu la voix de son maître, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, ça veut dire maître. » C'est une réaction personnelle. Ensuite, Jésus lui dit, « Ne me retiens pas. » Manifestement, elle s'agrippait à Jésus, tête à pied. Il a dit, « Je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie ne veut pas que Jésus s'en aille. C'est compréhensible. Il doit partir. Il doit accomplir sa mission. Il doit être notre avocat à la droite du Père. Il doit envoyer l'Esprit. Et les mots à la fin de cette phrase sont parlants pour nous en parlant de la foi personnelle. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Parce que celui qui met sa foi en Jésus, qui met sa confiance en lui, qui s'assoit en quelque sorte sur cette chaise, qui a sur la base de toutes ses preuves, fait ce pas logique et raisonnable, en fait, il entre dans une relation personnelle avec Dieu. Une relation d'intimité. Le Dieu de Jésus est son Dieu. Le Père de Jésus est son Père. C'est personnel. La foi est personnelle. Quand Jésus salue ses disciples, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Ce n'est pas juste une salutation. C'est quelque chose qui est lourd de sens. En effet, Jésus est notre paix. Il est cet agneau qui a enlevé nos péchés. C'est ce que Jean-Baptiste a dit au début de l'Évangile. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et ça, c'est notre témoignage. Quand on met notre confiance en Jésus, celui qui est mort à notre place pour nos péchés, c'est la paix. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est notre serviteur. On l'a vu au chapitre 13. Ce serviteur qui s'est abaissé, qui a lavé les pieds de ses disciples, Jésus a lavé nos pieds. Il nous a lavé, c'est ce qu'il a fait par son sacrifice à la croix. Il a enlevé toutes nos fautes, cette honte qui nous souillait. Il nous a rendus purs. Et du coup, nos cœurs espèrent en lui. Quand nous mettons notre confiance en Jésus, ça devient notre témoignage, notre vécu. Dieu m'aime, tout comme il a aimé Jésus. Quand on se rend compte dans nos cœurs qu'il a donné son Fils unique pour nous, son amour est déversé dans nos cœurs par l'Esprit. Et donc c'est personnel, la foi chrétienne est une foi personnelle. Il y a une part de subjectivité. On expérimente. Et le degré de cette expérience dépend de bien des facteurs, peut-être aussi de notre arrière-plan familial, de notre psychologie même. Mais ça passe par ce pas logique vers une expérience, vers une paix en Dieu. Et celui qui met sa confiance en Jésus n'est pas déçu. Thomas a pris ce chemin. Un chemin imprégné de logique et de raison, on l'a vu. Et ensuite Jésus lui a dit, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. On ne sait pas si Thomas l'a fait. Et ensuite, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il a été logique, il a été raisonnable. Et ensuite, il fait ce pas personnel de confiance en Jésus. En quelque sorte, Thomas s'est assis sur la chaise. Et notre foi doit être personnelle. C'est une affaire du cœur. Mais c'est bien le témoignage oculaire de Jean qui nous y a conduits. Nous n'y étions pas. On ne peut pas revenir en arrière quoi, des témoins comme Thomas, comme Jean. On ne peut pas lui mettre dans une machine à remonter le temps. Mais nous, on a le témoignage de Jean et des autres disciples. Jean nous a dit qu'il a tout écrit pour que nous puissions croire, et ça de manière raisonnable, croire que Jésus est vraiment ce Messie, le Christ, qu'il est vraiment Dieu lui-même, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, c'est-à-dire en mettant notre confiance en Jésus, en nous asseyant sur la chaise en quelque sorte, nous pouvons avoir cette vie, cette relation personnelle avec Dieu, le Père de Jésus. En mettant notre confiance en Jésus, on n'est pas déçu. Notre foi est une foi personnelle. D'une autre manière, par la foi, on peut dire que nous avons vu le Seigneur, nous aussi. Mais j'aimerais terminer en affirmant que notre foi est publique aussi. Si Jésus revient d'entre les morts le dimanche de Pâques, c'est pour que cette nouvelle ne reste pas cachée, mais qu'elle soit étalée au grand jour. En Jésus, la paix nous est offerte à nous tous, qui que nous soyons. Quoi que nous ayons fait, quelle que soit la lourdeur de nos fautes, quel que soit le niveau de doute et d'incrédulité initiale, le pardon nous est offert tous. Par celui qui s'est dit la résurrection et la vie, et qui est en effet revenu d'entre les morts, qui a vaincu la mort. Et tout être humain est concerné par ça. C'est pas juste une nouvelle pour un certain segment de la population, comme si on était un peu dans le marketing et on ciblait un segment de la population, comme si l'évangile était juste pour les pauvres, ou juste pour les faibles, ou juste pour les grands pécheurs. Donc face à la mort, nous sommes tous concernés. Et comme la Bible nous dit, la mort c'est le salaire pour nos péchés, on est tous face à la condamnation de Dieu. Alors Jésus aurait pu monter tout de suite au ciel, mais il s'est montré de manière physique. Il s'est donné à voir dans notre espace géographique, dans l'histoire, à un moment précis, il y a 2000 ans. Marie de Magdala l'a touché. Les disciples l'ont vu. Et comme on le voit la semaine prochaine, ils ont même mangé avec lui. Jésus a mangé, physiquement mangé. Il a dû avoir des dents. Jésus ne s'est pas caché. Ce n'est pas juste un sentiment religieux. Jésus n'est pas un sentiment religieux. Il est un homme public, comme nous sommes des personnages publics. On est là, dans l'espace public. On a des corps. La parole s'est faite chair. Dieu a pris une chair humaine. Et cette chair humaine est revenu d'entre les morts, dans l'espace géographique, dans le temps, de manière publique. Et Jésus a chargé ses disciples de l'annoncer, lui, Jésus, d'annoncer cette nouvelle qui le concerne et qui concerne tous, qui concerne toute l'humanité. C'est ce qu'il dit au verset 21 à 23. Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Jésus envoie ses disciples. C'est un peu un moment comme un commentateur explique, je pense que c'est Donald Carson, mais je ne suis pas sûr. Il explique que c'est un peu l'anticipation de la Pentecôte quand Dieu envoie l'Esprit. Jésus envoie ses disciples dans la puissance de l'Esprit avec une parole, avec un message de pardon. Bon, ces dernières paroles sont peut-être un peu difficiles à interpréter d'abord, mais sans doute Jésus évoque le fait que la bonne nouvelle, sa bonne nouvelle, conduit au pardon. Et que ceux qui croient cette bonne nouvelle sont effectivement déjà pardonnés. Et ceux qui n'y croient pas, ne sont pas. Et 2000 ans plus tard, nous qui avons cru le témoignage des apôtres, nous qui avons goûté par la foi à la bonté du Seigneur, à sa paix. On est chargé du même message. C'est pas juste un message d'ordre personnel, avec un sentiment personnel. C'est l'annonce d'un homme qui est revenu d'entre les morts il y a 2000 ans. Un événement historique appuyé de nombreux témoins oculaires crédibles. Nous parlons de la vraie histoire, pas juste une histoire parallèle, subjective, personnelle. Nous parlons de la même histoire que les manuels scolaires présentent. Ceux qui refusent de croire en la résurrection de Jésus, qui la nie, sont obligés de donner une explication alternative à ces événements. Ils peinent à expliquer ces choses de manière crédible, de manière suffisante. Mais cet événement historique et public, cette foi raisonnable et logique, est également notre foi personnelle, du cœur. Car nous avons mis notre confiance en Jésus. Et Jésus ne nous a pas déçus. Nous avons goûté en lui à l'amour de Dieu. Nous savons qu'il est vivant. Et à notre manière, par la foi, nous l'avons vu. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et ça change tout pour l'humanité. L'humanité tout entière. Pour nos amis, nos camarades de classe, nos collègues, nos familles, nos voisins, même ceux qui sont très loin, à l'autre bout du monde. L'humanité tout entière a besoin de rencontrer ce Christ ressuscité. Pour s'agenouiller devant lui, de lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est une question de vie et de mort. Et comme l'évangéliste Jean venu persuader que c'est bien raisonnable de croire en Jésus. Voilà. On va prier. Merci notre bon Père Céleste pour ce témoignage de Jean que tu nous as donné. Merci pour la Bible. Nous n'y étions pas. Nous ne pouvons pas revenir en arrière nous-mêmes. Mais tu nous as donné ce témoignage oculaire, crédible. Notre bon Père Céleste, nous voulons les prendre au sérieux et prendre en présenter à d'autres aussi. Et en même temps, nous savons, comme pour les disciples, que nous avons besoin de l'œuvre de ton esprit pour voir, pour faire ce pas logique de foi, pour mettre notre confiance en Jésus. Merci parce que, encore aujourd'hui, tu es en train d'ouvrir les yeux. D'enterrer ce miracle, de donner la vie. Notre bon Père Céleste, nous voulons te remettre nos amis, nos collègues, nos camarades de classe et d'autres personnes autour du monde, des peuples entiers qui ne te connaissent pas. Notre bon Père Céleste, nous prions en ce dimanche de Pâques que cette parole puisse se répandre puissamment dans notre génération, que ce témoignage puisse être entendu et que des milliers, des millions de personnes puissent venir à la foi, s'agenouiller devant Jésus, ton Fils, et dire mon Seigneur et mon Dieu, pour ta gloire. Et nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.